divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge de France. Une émission présentée et préparée par Perry Willet. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission en direct cette fois, après tant de rediffusions, en effet liées au confinement et aux mesures sanitaires. Nous devons remercier aussi la Grande Loge féminine de France, dont c'était l'émission ce dimanche et qui a bien voulu permuter avec notre émission qui aurait dû avoir lieu en octobre. Et pourquoi ? Parce que précisément, pour cette reprise à la Grande Loge de France, quoi de plus naturel que de recevoir le grand maître de la Grande Loge de France ? Bonjour Pierre-Marie Adam.
Bonjour Perry.
Pour voir précisément comment notre obédience a traversé cette pandémie, cette crise sanitaire, crise économique aussi qui pointe à l'horizon. Que s'est-il passé pendant cette longue période depuis février ?
Depuis février, depuis le 15 mars pour être très précis, quelle a été la vie de l'obédience pendant ce moment ? Bien d'abord, la préoccupation de ses responsables, préoccupation majeure du grand maître que je suis, des grands officiers qui m'ont soutenu dans cette tâche. Elle a d'abord été de soutenir les frères dans leur situation pour nous assurer de les garder en bonne santé, pour nous assurer aussi de la situation dans laquelle ils se trouvaient. En deuxième point, préserver les règles de fonctionnement de l'institution malgré le fait que nous ne pouvions plus nous réunir et donc organiser l'Assemblée Générale annuelle qui était obligatoire et que nous avons faite de manière dématérialisée.
Excusez-moi, ça veut dire quoi, dématérialiser ? Vous avez fait une assemblée générale à distance ? Comment ça s'est passé ?
Non, c'est-à-dire simplement qu'on a limité notre assemblée générale à tout ce qui est administrativement obligatoire, à savoir tout ce qui correspond aux associations de loi 1901, ce que nous sommes. Et sur ce point, d'abord, nous avons réussi ce challenge, et ensuite, 95% des députés se sont mobilisés pour répondre à nos questions, et sur ces 95%, nous avons eu des réponses favorables de 90%, ce qui prouve que les frères nous ont fait confiance pour gérer la maison pendant ce moment. Troisième préoccupation, respecter nos engagements financiers malgré les difficultés. Et puis quatrièmement, faire en sorte que nous puissions préparer la reprise dans les meilleures conditions de santé et de sécurité pour permettre à tous nos frères de revenir dans les loges. Et à cet égard, nous étions prêts pour la rentrée au 1er septembre. Mais c'est vrai, nos activités, nos manifestations, nos rencontres, tout cela a été suspendu par la force des choses.
Et donc ça, c'est l'aspect administratif. Pendant ce temps-là, je suppose que pour respecter les lois, les précautions sanitaires, vous avez eu des contacts avec nos gouvernants, les pouvoirs publics ?
Oui, à vrai dire, ces contacts, nous avions eu en vrai, si je puis dire, avant le confinement, ont été suspendus. En revanche, nous avons envoyé des écrits, nous nous sommes adressés aux pouvoirs publics, et pour le coup, l'ensemble des obédiences, pour nous assurer que les conditions dans lesquelles nous reprenions nos activités étaient bien conformes à la législation. Nous avons eu ici ou là des confirmations que, bien que étant considérés comme des établissements recevant du public, étant donné que nous ne recevions que des membres de notre association, nous n'étions pas concernés par ces restrictions. En tout cas, pour l'instant.
Jusqu'à aujourd'hui. Et donc, vous avez fait ça, Grande Loge de France, mais je suppose que c'est la même chose pour toutes les obédiences.
Oui.
Parce que j'ai remarqué que toutes les obédiences principales recommençaient leurs travaux à partir du
1er
septembre.
Nous avons profité de ces circonstances un peu singulières pour nous rassembler, toutes obédiences confondues, et définir des règles communes dans ce que nous avons appelé des réunions interobédientielles en visio, bien entendu, des règles communes aussi bien pour les consignes sanitaires, parce que nous partageons un certain nombre de bâtiments ensemble et qu'il fallait que les règles soient les mêmes pour tous, et aussi au point de vue des rituels, parce qu'il fallait que nous puissions accomplir nos tenues une fois que nous les recommencions, tout en respectant la distanciation, enfin, ou les règles nécessaires. Alors parfois, ça grince un peu, parce que il n'y a de vrai rituel que le rituel. Mais il faut parfois aussi
savoir s'adapter.
S'adapter avec les circonstances.
Bon, le franc-maçon n'est pas ennemi non plus du changement et
non,
du progrès.
Non, on ne va pas rappeler les phrases célèbres d'Isaac Rémieux, mais c'est quand même la réalité.
Bon, si l'on revenait à nos loges, que s'est-il passé dans les loges? Alors, plus rien
On dirait que vous avez lu un blog il y a un peu de temps. Alors justement, comme tous les citoyens français, bien entendu, les frères de l'Hexagone et des Outre-mer ont été contraints dès le 17 mars de cesser toute activité, en tout cas à venir dans leur loge. Mais pour autant, nous ne sommes pas restés complètement muets, ni inertes, ni inactifs. Contrairement justement, alors, puisque vous m'ouvrez la porte, je vais pouvoir faire une sorte de billet d'humeur. J'ai lu quelque part que, heureusement, certains avaient pris la place des grandes obédiences qui étaient restées muettes, inertes, etc. et avaient comme ça pu prendre, devenir le centre de l'Union. Alors, quelle prétention, le centre de l'Union. C'est une phrase tirée des constitutions d'Anderson et du chevalier de Ramsay, et je me dis qu'il faut déjà avoir beaucoup d'orgueil pour pouvoir prétendre ça. Ensuite,
ça me rappelle, si vous permettez, j'ai une phrase qui est connue de là au-dessus, c'est finalement « reste simplement au centre du cercle et laisse toutes choses suivre leur cours tranquillement ». Donc c'est voilà. Un peu d'humilité en fait.
Restons humbles dans ce que nous faisons. Mais bien sûr, ça a été... Alors, ensuite, concernant ces activités de ces entretiens, des entretiens ou des conférences ne peuvent pas tenir lieu de démarches initiatiques ou maçonniques, mais tout au plus venir en complément intellectuel, philosophique, scientifique, du moins en tout cas quand ils sont dispensés par des philosophes, des scientifiques et des historiens qui ne sont pas autoproclamés. Mais par ailleurs, la franc-maçonnerie n'est ni une université, ni une université populaire, ni une académie, un campus, un forum, enfin toutes ces choses. La démarche maçonnique, c'est un dialogue singulier de soi à soi, dans le but de se perfectionner. C'est un dialogue singulier encore, mais de soi à l'autre. Et ce dialogue, il se fait en loge, au milieu de ses frères. Tout ce qui n'est pas cela n'est pas la franc-maçonnerie au sens strict du terme.
Donc il n'y a pas eu de tenue, en visio-tenue ou de tenue à distance, ça n'existe pas.
Rassurez-nous. Il n'y a pas eu de vie. Non, non. Et moi, grand maître, si je puis dire, c'est pas quelque chose qui risque trop d'arriver. Voilà, je le dis comme ça. Non, non. La présence physique est essentielle à nos réunions, à nos tenues. Il y a dans cette présence physique à la fois du ressenti, à la fois de l'émotif, à la fois, comment dirais-je, du visuel. Et cela, ça ne peut pas passer par les moyens informatiques et numériques, même si, quand vous allez peut-être vous demander ce qu'avons-nous fait donc pendant tout ce temps, nous avons pu faire autre chose. Mais ce n'était pas la vraie démarche maçonnique.
Sous d'autres formes, c'est-à-dire des réunions entre les apprentis, les compagnons et les maîtres, chacun avec...
Oui, et pour des travaux qui ne nécessitent pas d'ouverture avec le rituel et dans cet espace sacré qu'est la loge et en tenue. Alors, les loges ont travaillé, toutes les loges sans exception ont travaillé, elles ont voulu garder les contacts entre les frères, elles ont voulu entretenir ces liens, elles ont voulu assurer aussi la solidarité entre les sœurs et les frères, quand il s'agissait d'autres obédiences, parce que certains se sont trouvés isolés, simplement isolés. D'autres se sont trouvés isolés et en difficulté. D'autres enfin se sont trouvés isolés et touchés par la pandémie. Et dans ce cas, les abandonner, ça aurait été juste le contraire de la fraternité.
Faut peut-être rappeler que ceux qui nous critiquent pensent que nous sommes une élite, et ce qu'il faut contredire est que de nombreux frères chez nous ont été malades, gravement malades. Un certain nombre de frères sont décédés de la Covid, et d'autres sont toujours dans des situations physiques très, très délicates. Donc une attention particulière doit leur
être portée. C'est ça, et cette attention, elle s'est portée à la fois à l'échelle, au niveau de la loge elle-même, ensuite au niveau de l'obédience par le biais de son grand hospitalier, et enfin au niveau des structures de solidarité que sont l'entraide fraternelle, la poignée de main ou solidarité jeunesse. Nous avons voulu, je reviens à votre première question, nous avons voulu que l'obédience ne soit pas en congé pendant tout ce temps, mais qu'au contraire elle soit peut-être même plus attentive encore qu'à l'habitude.
Quel type de travaux ont eu ces loges pendant cette période?
Alors, ces travaux ont de deux sortes. D'abord, comme vous le disiez, poursuivre les entretiens que nous avons parfois dans le cadre de l'instruction, ce que nous appelons l'instruction, en tout cas l'approfondissement des symboles ou l'approfondissement des degrés, parce que ça, ça ne nécessite pas une mise en tenue, si je puis dire, et donc les surveillants ont pu travailler avec leurs apprentis, leurs compagnons, et même faire des réunions de maîtres. Ensuite, parce que un certain nombre de contributions à caractère, je veux dire, philosophique, symbolique, ont pu être échangées. Et pour cela, la visioconférence n'est pas un obstacle. Au contraire, elle a même été... Les rencontres, le partage a été presque renforcé par cette période, parce que tout le monde s'est mis à la visioconférence. D'ailleurs, le grand maître, moi en tout cas, pense à poursuivre et à renforcer encore ces rencontres qui se font par ce moyen, parce que elles nous évitent des déplacements, elles nous évitent du temps inutile de voyage, elles nous évitent aussi des dépenses, mais en tout cas, elles permettent aussi une meilleure proximité entre l'exécutif et les loges, ou entre les vénérables maîtres et les loges.
Vous aviez lancé, avant le confinement, le projet du jour d'après. Ce travail a été achevé.
Pas achevé, ce serait trop prétentieux de dire qu'en 3 mois de temps, on a pu résoudre cette question. En fait, la question du futur de nos loges avait été posée avant l'arrivée de la pandémie. Parce que je pense que nous avons une vraie interrogation sur que serons-nous demain ? Que seront les loges ? Que sera la franc-maçonnerie demain ? Est-ce qu'elle existera encore ? Et si oui, ce que nous croyons, comment aura-t-elle évolué ? Et puis, il se trouve que la pandémie étant arrivée, les loges n'ont eu d'autres préoccupations que de réfléchir à ce type de questions. À la fois au futur de nos loges et aux relations entre les frères, ça c'est pour l'interne, et d'autre part, à quelle sera la place de la franc-maçonnerie, et particulièrement de la Grande Loge de France, dans la société de demain. C'est pas du sociétal, c'est de l'implication dans la vie quotidienne, l'implication des francs-maçons, chacun dans son environnement. Et les loges ont travaillé là-dessus. Et par ailleurs, nous aurons une restitution qui se fera à l'automne, je veux dire vers le mois de novembre, et pour laquelle nous essaierons d'avoir pris des grandes lignes de façon à poursuivre le travail.
Pendant ce temps-là, la Grande Loge de France, pardon, a été attractive parce que j'ai vu des chiffres sur le nombre de candidatures spontanées. Oui. Vous pouvez nous préciser ce point ?
Oui, alors habituellement, nous avions des candidatures spontanées qui arrivaient de façon régulière. Ici, nous en avons 500 en attente qui sont arrivées, qui vont faire l'objet maintenant d'une prise en compte et qui vont permettre de faire venir chez nous des profanes qui ont peut-être profiter de ce moment pour réfléchir et se dire qu'après tout, ça pouvait être une démarche pour eux.
Il y a beaucoup de jeunes parmi eux.
Oui.
Et il y a aussi tout un chantier sur la jeunesse. D'ailleurs, la dernière émission que nous avions faite ici en direct, c'était avec deux jeunes apprentis. D'ailleurs, cette émission, nous l'avons remise en boucle pendant la période de confinement. Il y a un projet qui s'appelle Télémac, qui est le nom en interne. Oui. De quoi s'agit-il ? Est-ce que l'on peut expliquer aux jeunes qui nous écoutent l'intérêt ?
Nous pensons que si nous ne voulons pas être en décalage avec la société d'aujourd'hui, nous devons travailler sur deux champs. Le premier champ, c'est celui de la proximité générationnelle. Le deuxième champ, c'est celui de l'usage des moyens de communication que les jeunes d'aujourd'hui utilisent. Et on est en train d'essayer d'améliorer, de moderniser notre communication. Et le groupe Télémac va nous aider, comme notre service de com que nous allons remodeler, de façon à parler aux jeunes comme ils sont habitués à entendre qu'on leur parle. Et Télémac, que je veux être le groupe, comment dirais-je, qui vient aider le grand maître à être plus proche peut-être des jeunes en question, travaille sur 4 axes. La vie maçonnique et la fraternité, sur la communication interne et externe, ça tombe bien. Le jeune maçon dans la cité, parce que c'est une préoccupation d'être utile à son environnement. Et puis enfin, le sens de la démarche, parce que peut-être pourront-ils mieux expliquer ce pourquoi ils sont venus.
Est-ce que l'on peut parler maintenant des relations avec les autres obédiences ? Oui. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, je veux bien parler des relations avec les obédiences en termes de institutionnels.
Oui.
Ce qui s'est passé pendant tout ce temps de Covid et qui nous a permis de nous rapprocher. Même simplement nous parler et être ensemble. Mais nous avons aussi un autre axe de travail interobédientiel. Mais là, je vais vous laisser en parler, Perry, puisque c'est vous que j'ai chargé réaliser.
Alors, il s'agit de deux types de conférences. Les premières, c'est avec le Grand Orient de France. Nous avons appelé ça les dialogues maçonniques. L'année dernière, nous avions trouvé comme thème « À quelle humanité travaille le franc-maçon ?» Et cette année, le 17 octobre, ça se passera dans le temple Groussier du Grand Orient de France, rue Cadet, parce que nous n'avons plus d'événements dans nos locaux. Et les quatre conférenciers travailleront sur le thème « Sur quelles valeurs fonder le monde de demain ?»
Ça tombe bien.
Et puis nous devions, avec la Grande Loge Nationale Française, avoir au mois de novembre les entretiens pics de la Mirandole. Donc, pour des raisons évidentes, ça va être décalé au premier semestre 2021. Et là, nous parlerons du temps des hommes et du temps de la nature. Et la date n'est pas encore fixée, mais ça se passera bien dans nos locaux et ce sera une conférence ouverte au public. Et là, ouais, on espère qu'il y aura le
plus grand nombre. Revenir à nos habitudes et à nos traditions.
Et le troisième projet, c'est avec la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, dans le cadre du pôle tradition. Nous allons aussi travailler sur l'élaboration d'une conférence publique, toujours dans le premier semestre 2021.
Comme quoi, nous n'avons pas été inertes et nous n'avons pas l'intention de le rester.
Merci. Juste quelques mots sur le dernier ouvrage de point de vue initiatique, dont le thème est « Franc-maçonnerie et christianisme » au pluriel, qui est un complément de celui qui avait été édité en 2018, parce que les frères de la Grande Loge de France, par essence curieux de tout, ne s'opposent pas à telle ou telle religion. D'ailleurs, qu'ils soient croyants ou non croyants, ils sont les bienvenus à la Grande Loge de France. Et il me reste à remercier à la technique Marie le peintre, et puis à la réalisation, Perret Legras, qui est notre nouveau réalisateur, qui remplace dorénavant Danny Journeau, à qui nous faisons un amical coucou. Et nous lui souhaitons de partir dans une retraite la plus paisible et la plus heureuse possible. Nous la saluons. Bon dimanche à toutes, bon dimanche à tous, et rendez-vous donc le 15 novembre.
Merci Perret.
Merci grand maître.